La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
La Tunisie doit élire son prochain président dans moins de 2 semaines. Mais depuis hier, ce second tour de l'élection présidentielle a du plomb dans l'aile.
Oui, c'est le grand titre ce matin du site d'info tunisien Leader. Car hier, le candidat Nabil Karoui a vu sa demande de remise en liberté rejetée par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Tunis. Le milliardaire mania des médias, celui qui ne cache pas son admiration mimétique pour Silvio Berlusconi, reste donc en prison où il dort depuis avant même le premier tour, soupçonné qu'il est de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. Nabil Karoui, toujours en lice pour ce second tour du 13 octobre face au vieux professeur de droit constitutionnel et très conservateur Kaïs Sayed, mais Nabil Karoui maintenu donc en détention avec cette décision de justice, résume Leader. On s'achemine en bonne logique vers une invalidation du scrutin, car, analyse le journal La Presse à Tunis, si la loi n'empêche pas en théorie que le second tour ait bien lieu. Les avocats de Nabil Karoui disent depuis longtemps que si leur client n'est pas libre de mener campagne, alors ils contesteront la validité du scrutin sur la base du non-respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats et de l'avis général. Ils ont de bonnes chances de l'emporter devant un tribunal.
On s'achemine donc, c'est le moins qu'on puisse dire, vers un second tour atypique.
Oui, second tour atypique, c'est en effet l'euphémisme retenu par La Presse pour résumer cette situation franchement exceptionnelle. Personne ne sait vraiment à quoi il va ressembler ce second tour du 13 octobre, et d'autant plus que même emprisonné, Nabil Karoui garde de réelles chances de victoire. Si le vainqueur est en prison, qu'est-ce que l'on fait? Encore un point d'interrogation qui pèse lourd sur la jeune démocratie tunisienne. Mais à lire cette même presse, il doit y avoir une audience de la dernière chance pour la libération de Nabil Karoui ce mercredi matin. Alors l'économiste maghrébin ou encore le HuffPost Tunisie y vont encore de leurs articles exigeant encore et toujours que le candidat soit laissé libre de mener campagne. Cette libération, comprend-on, est en fait la seule manière de se sortir d'une impasse judiciaire et politique complète, car si on va vers une annulation probable des résultats du second tour, alors quid de la suite, sachant que l'actuel président n'est là que par intérim après la mort du président élu Béji Caïd Essebsi à la fin du mois de juillet. L'intérim ne peut pas durer plus de 90 jours, on y arrive bientôt, alors là aussi on se retrouve dans une impasse. Ajoutez à cela le fait que les Tunisiens votent dès ce week-end pour cette fois des élections législatives qui, toutes cruciales qu'elles soient, n'en sont pas moins phagocytées par ce tumulte présidentiel. Qu'on apprécie ou pas le Berlusconi tunisien, on est bien obligé de le reconnaître ce matin. Pour que la démocratie tunisienne existe au moins le temps de l'élection, il faut libérer Nabil Karoui.
La presse russe, elle, trinque à une bonne nouvelle en matière de santé publique.
Et oui, champagne, puisque figurez-vous que selon des données de l'OMS reprises par plusieurs titres, à commencer par la Rassiskaya Gazeta, les Russes boivent de moins en moins d'alcool. Leur consommation moyenne a baissé, excusez du peu, de 43% entre 2003 et 2016. Moins 43%. C'est colossal, c'est un changement sociétal fort, d'autant, ajoute le ministère de la Santé russe, que le nombre de personnes traitées médicalement pour alcoolisme a lui aussi quasiment baissé de moitié dans la même période. Quasiment la moitié donc de malades en moins, moins 43% de consommation en moyenne. Ça pourrait tendre à démontrer qu'en fait tous les Russes en 2003 souffraient d'alcoolisme, mais on ne va pas faire dire à n'importe quoi aux chiffres. Tout cela est très sérieux et tord le cou justement à un vieux cliché. D'autant que les conséquences en matière de santé publique sont frappantes, nous dit Radio Svoboda. L'effet a été immédiat sur l'espérance de vie des Russes qui connaît un pic historique. Vous voyez plutôt 78 ans pour les femmes et 68 pour les hommes. Ça vous semblera peut-être un peu jeune pour mourir, 68 ans, mais il faut se souvenir que cette même espérance de vie était d'à peine 58 ans pour les hommes russes à la chute de l'URSS. Tout ça fait que la Russie, même si elle reste l'un des pays où l'on boit le plus au monde, est désormais citée en exemple de l'efficacité de ses politiques anti-tabac. La correspondante à Moscou de la BBC, ici, Sarah Rainsford nous rappelle ces lois successives prises par Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev en nous racontant les transformations qu'elles ont suscitées dans le paysage urbain de la capitale. La disparition des petits kiosques en pleine rue qui regorgeaient de bouteilles de bière, vodka et tout ce qu'il faut pour grignoter avec et qui étaient ouverts toute la nuit. L'interdiction de boire dans l'espace public qui a changé la physionomie des trottoirs et des parcs. Tout ça va aussi avec une promotion de mode de vie plus sain, de consommation d'alcool moins quantitative et plus qualitative.
Mais si la Russie consomme moins d'alcool, elle continue d'en produire énormément, Camille.
Et dans le quotidien économique Viedomosti, on apprend que le gouvernement russe a décidé de subventionner l'exportation des alcools russes. C'est arrivé hier au même moment que les statistiques encourageantes de l'OMS. Et d'ailleurs, ça donne un peu l'impression qu'on va inonder le reste du monde avec les stocks non consommés sur le marché intérieur. Plus sérieusement, le président Poutine en personne vient de signer une loi qui modifie le budget national en instaurant des subventions pour les producteurs d'alcool russe à l'export. Jusque-là, seul le secteur quasi insignifiant du vin bénéficiait de ces aides publiques. Désormais, tous les spiritueux « made in Russia » y auront droit. Et forcément, ce sont les bières et les vodkas russes qui devraient en profiter pour se lancer à la conquête du marché mondial. Il faut savoir, et Viedomosti nous le dit bien d'ailleurs, que si les exportations de vodka à travers la planète représentent un chiffre d'affaires annuel de 40 milliards de dollars, dont 15 milliards vendus avec une étiquette indiquant « vodka russe », en vérité, seule une infime partie est réellement produite en Russie. C'est cela que veut apparemment changer Vladimir Poutine. Et in fine, l'OMS ne lui dira peut-être pas merci.